Le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Soyata Maïga, avocate malienne, ancienne magistrate, juriste, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, militante des droits des femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez un parcours remarquable. Pourriez-vous nous retracer votre évolution professionnelle? Le goût de la justice, quand est-ce que cela a commencé pour vous?
J'ai passé le baccalauréat et après les études en sciences juridiques à l'École nationale d'administration du Mali à l'époque, qui formait les magistrats. Et par la suite, une formation de 2 ans à l'École nationale de la magistrature, section internationale de Paris, où on était des ressortissants de 12 pays francophones africains. À mon retour de Paris en 79, j'ai exercé en tant que magistrat et j'ai été successivement substitut du procureur de la République du tribunal de Bamako, présidente de la section correctionnelle du tribunal de Bamako, présidente du tribunal de première instance de la commune de Bamako. Par la suite, j'ai été affecté comme présidente de la chambre d'accusation du Mali. C'est là que j'ai bouclé mes 15 années de magistrature, puisque avant la relecture de la loi, les magistrats à la retraite pouvaient rejoindre le barreau. Et c'est à partir justement de là que je suis donc allé au barreau en 1992. Je me suis dit, il faut peut-être faire le bon choix, pour me permettre de défendre valablement mes convictions par rapport, en tout cas, à ce que chacune de nous, femmes magistrates, devrait apporter à la défense des droits des femmes. L'autre motivation, c'est que nous sommes toutes ici issues de familles polygamiques. Beaucoup de femmes dans un même foyer, avec des enfants de mères différentes, avec un père, des pères de foi qui affichent leur préférence à telle ou telle femme, à telle ou telle enfant. Donc, quand on est et on grandit dans ce milieu, on devient sensible à l'injustice, on devient sensible à la discrimination. Ce sont des considérations de ce genre qui m'ont amené à ouvrir les yeux sur la quête de la justice, au profit des femmes, au profit des filles.
En tant que juriste consultante, vous avez participé à la réalisation d'études sur l'excision. Pouvez-vous nous en parler?
C'est d'un programme conduit sous la houlette de l'Association des femmes juristes, dont je suis membre fondatrice. Alors, il fallait mener la réflexion et voir effectivement l'impact de la pratique sur la vie sexuelle des femmes, sur l'intégrité physique des femmes et voir effectivement comment conduire les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information, d'éducation dans les écoles, dans les communautés, avec les leaders religieux, les leaders communautaires.
Près de 9 femmes sur 10 au Mali ont subi l'excision. Pourquoi toujours autant de cas malgré tous les efforts engagés depuis des décennies? Est-il possible d'envisager, selon vous, une loi pour pénaliser les MGF aujourd'hui? Ou cela paraît-il encore inconcevable?
Nous avons constaté que les pays qui ont des lois, comme le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, n'ont pas réalisé des progrès significatifs en termes de diminution de la prévalence de l'excision. Il y a eu des cas emblématiques au Burkina Faso devant les tribunaux, mais il nous a été difficile de pouvoir avoir des éléments documentés qui puissent effectivement mesurer l'impact de la loi sur la persistance de la pratique. Dans tous ces pays, il y a des programmes combinés. Il y a la loi, mais il y a également la sensibilisation des exciseuses. Mais cela aussi s'est avéré assez difficile. C'est vrai que au niveau des couples dans les capitales ou dans certaines localités, il y a eu un semblant de progrès avec la synergie de tous les acteurs. Après, il y a des relâchements. Nous avons vu, par exemple, avec l'insécurité et la fermeture des écoles, les filles qui reviennent dans les familles et les familles qui essaient de contrôler leur fécondité ou leur sexualité à travers la reprise de cette pratique-là. Il pourrait être envisagé effectivement d'aller à l'adoption d'une loi, même si, comme j'ai dit, il faut un accompagnement, il faut une conscience collective que c'est une pratique qui déshonore la femme, qui porte atteinte à son intégrité physique, qui porte atteinte des fois à la vie de certaines fillettes. On a vu des cas de décès suite à des hémorragies. On a vu les conséquences également au niveau de la maternité, une fois les femmes en âge de procréer. Donc, de mon point de vue, c'est une pratique qu'il faut encadrer. Et une loi procède toujours d'une sensibilisation. J'ai vu qu'au Burkina, par exemple, une excuseuse qui est prise, on lui remet une copie de la loi, on lui lit le contenu de la loi, on l'encadre, on essaie de voir s'il y a d'autres excuseuses, faut pas qu'elle dépose le couteau et qu'elle le donne à la nièce. Donc je pense que la loi, c'est toujours un point d'appui important qui permet aux sociétés d'évoluer, qui permet aux sociétés de prendre date et de voir effectivement comment, à partir de l'adoption de la loi, elle peut être mise en application, elle peut être comprise, elle peut être traduite avec des actions complémentaires compte tenu du milieu, compte tenu du pays, compte tenu de la mentalité des uns et des autres.
Vous avez réalisé des études sur l'accès des femmes à la terre et au crédit. Là aussi, est-ce que l'on peut noter un avancement ces deux dernières décennies ?
Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu donc le code domanial et foncier. Il y a eu par la suite beaucoup de lois d'orientation en 2006, en 2017 pour essayer de sécuriser les terres qui appartiennent au domaine de l'État et pour faire en sorte que l'État fasse la promotion des groupements de femmes, des groupements de jeunes pour leur promotion économique et sociale. Donc il y a eu des grands chantiers qui ont été mis en route avec des résultats plus ou moins mitigés. Il y a ceux qui s'en sortent, mais généralement les femmes, à cause de la pauvreté, à cause de l'analphabétisme, de la méconnaissance aussi des textes, des contraintes aussi familiales, la polygamie qui fait que vous n'êtes pas propriétaire des terres qui vous sont données par votre époux. En cas d'abandon de domicile conjugal, on vous retire la terre. En cas de divorce, on vous retire la terre. Donc la sécurisation n'est pas optimale. Mais il y a quand même des coopératives de femmes qui arrivent à s'en sortir avec l'aide de l'État, avec des partenaires techniques et financiers. Et par la suite, dans des pays comme le nôtre, qui est confronté au terrorisme et au conflit intercommunautaire d'ailleurs, la productivité, des fois, n'a pas été facile à mener. Les femmes n'avaient plus leurs champs, les champs étaient brûlés. Elles étaient obligées de se retrouver en grand nombre parmi les populations déplacées internes. Donc, nous devons effectivement continuer la réflexion et faire en sorte que l'intégration du genre soit au centre des politiques agricoles, des politiques économiques également.
Soyata Maïga, vous êtes experte en droit de la famille. Vous avez participé à la rédaction du Code de la famille. Êtes-vous satisfaite aujourd'hui de ce code dans son entièreté ?
C'est vrai que l'adoption n'a pas été linéaire, un peu chaotique, mais pour l'essentiel, beaucoup de discriminations ont été retirées du Code du mariage et de la tutelle, qui était le texte en vigueur à l'époque. Et le Code de la famille s'est inspiré du protocole de Maputo. La réflexion et les efforts ont porté sur la protection des droits des femmes au moment du divorce, la séparation des corps et lors du partage de la succession. Parce que avant le code de la famille, la succession était régie par les coutumes. Il n'y avait pas de texte écrit, c'était les coutumes devant les tribunaux. Et donc, avec le code de la famille, les successions ont été codifiées par rapport à toutes les exigences modernes. Et cela a contribué à une meilleure protection des droits des femmes. C'est vrai que les femmes et même les hommes n'ont pas une tradition d'aller à l'élaboration d'un testament. Et donc, il y a beaucoup effectivement de femmes après qui sont dans des ménages polygamiques et donc les terrains, des biens qui sont éparpillés entre la grande famille, la petite famille, les successions qui n'ont jamais été démêlées. Donc les femmes se débattent et souvent ça les épuise. Il est fréquent de voir des femmes dire « je suis fatiguée, vraiment, il faut arrêter les frais, il faut arrêter la procédure ». Donc, juste pour vous dire que le renforcement des droits des femmes passe effectivement par des textes, mais il passe également par le changement d'attitude, le changement de perception, l'éducation des uns et des autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui font retarder les progrès, qui font retarder les droits, qui font retarder la jouissance des droits.
Soyata Maïga, il y a 26 ans, vous avez rédigé un rapport sur l'état de la justice au Mali. Quels progrès ont été réalisés sur ce point depuis ?
Ce rapport a permis effectivement d'aboutir à l'élaboration et à l'adoption d'un projet décennal sur la justice avec beaucoup d'interactions entre les magistrats, les justiciables qui ont fait des critiques par rapport à comment ils voient leur justice. Des sujets comme la corruption par exemple étaient à l'ordre du jour, des sujets comme l'accès des justiciables au service public de la justice, l'état des droits, comment améliorer le fonctionnement des juridictions, comment faire en sorte que les citoyens s'approprient mieux des textes de différents codes. Par exemple, la présomption d'innocence, à l'époque, avait fait l'objet de grands débats, la protection des droits des consommateurs. Donc, ça aboutit effectivement à beaucoup de réformes qui se sont progressivement étendues et qui continuent d'ailleurs sur la réflexion qui est portée sur le service public de la justice, qui est un service fondamental, un service central par rapport à l'édification d'un état de droit et par rapport également à la protection des droits humains des citoyens. Ça continue avec la réforme du code de la famille, code pénal, direction des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs. Je pense que c'est de cela qu'il faut continuer à parler. Comment améliorer l'état de la justice, la compréhension des procédures, comment faire en sorte que l'éducation juridique soit intégrée dans les centres de droit qui avaient été créés, l'assistance juridique et judiciaire, les indigents. Donc, je pense que ce rapport a été bien accueilli, bien exploité et des réformes s'en sont suivies qui ont effectivement été d'un grand apport par rapport à l'état de droit et l'état de la justice au Mali.
Quelles sont vos plus belles réalisations personnelles en matière de droit et de statut de la femme ?
Pendant tout le temps où j'ai été rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, pendant les 8 années, à la Commission africaine, et ce travail continue. On en a fait le bilan en octobre 2024 à Banjul avec la rapporteure actuelle sur les droits de la femme en Afrique pour voir quelles sont les avancées et sur quels défis il faut continuer à travailler. Et voir effectivement quels sont les défis que nous avons au niveau national par rapport aux avancées, par rapport au statut de la femme. Il y a 44 États à avoir ratifié le protocole de Maputo. Ils sont 19 à être à jour par rapport à la présentation des rapports périodiques devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. J'ai été à l'origine de l'élaboration des lignes directrices par rapport au rapport d'État. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent traiter chaque article? Et donc, on a réussi au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à avoir un cadre de dialogue avec les États. J'ai été également à l'initiative de la mise en place du JIMA, qui est un espace également formalisé au niveau de l'Union africaine et qui suit les conférences des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons eu des espaces sur l'impact de la corruption sur les droits des femmes, l'éducation des filles et des femmes, la santé de la reproduction, la situation des femmes affectées et infectées par le VIH-SIDA. Nous avons aussi des programmes par rapport à la promotion économique des femmes rurales, comment renforcer le pouvoir des femmes dans l'agriculture. C'est un gros projet aussi qui est mené au niveau du GIMAC par les femmes de Aulin International. J'ai été également associé à l'élaboration du plan d'action national de la résolution 1325. Au Mali, on en est à notre 3e plan d'action national avec des groupes de référence, avec des partenaires intéressés à la question de femmes, paix, sécurité, que ce soit une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision, que ce soit au niveau de la prévention par rapport à la lutte contre les violences, le trafic des êtres humains et faire en sorte que dans la médiation et dans les réconciliations, les femmes aient une meilleure place autour de la table de négociation, s'investissent mieux dans la médiation intercommunautaire, dans la réconciliation entre les différents acteurs étatiques et non étatiques, et comment elles peuvent contribuer au retour des personnes déplacées dans leur localité d'origine, comment faire reprendre les activités de développement également. Donc il y a effectivement beaucoup de réalisations qui sont pas forcément personnelles, mais dans lesquelles j'ai quand même eu à jouer un rôle central quand j'étais rapporteur sur les droits de la femme en Afrique, sur lesquelles il faut veiller, il faut continuer à veiller, il faut continuer à être exigeant. Et l'interaction entre la résolution 1325 et les autres droits des femmes, parce que tout est lié.
Soyata Maïga, vous militez dans des associations et organisations féminines. Pourriez-vous nous expliquer votre engagement? Quelles sont les questions sur lesquelles vous mettez l'accent en particulier?
Mon engagement consiste à mettre mon expertise, mon expérience à la disposition des femmes des différentes organisations, que nous puissions des fois nous plonger dans les textes nationaux. J'ai toujours dit de privilégier la connaissance de la politique nationale genre. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelles sont, par exemple, les recommandations qui ont été faites pour notre pays au niveau de la CEDEF, au niveau du protocole de Maputo, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Parce qu'il s'agit de transformer notre réalité sociale. Et pour ceci, il faut que nous puissions maîtriser nos éléments, nous-mêmes, nos engagements, traduire nos textes nationaux dans les langues nationales. Comment traduire le protocole de Maputo, comment traduire la CEDEF dans les langues nationales, la résolution 1325. Les questions sur lesquelles je mets l'accent, c'est aussi la synergie, les réseautages. Parce que une ONG qui évolue seule ne peut pas engranger des résultats satisfaisants. Il faut qu'elle puisse s'enrichir de l'expérience des autres ONG qui travaillent sur les mêmes thématiques ou des thématiques différentes, qu'on croise effectivement les expériences en synergie également avec, c'est très important, avec le ministère thématique, le ministère de la promotion de la femme, le ministère de la santé, le ministère de l'agriculture, le ministère également du développement social, le ministère du développement industriel. Donc souvent, à cause de l'érection des ministères de la promotion de la femme dans les pays, la transversalité a perdu de son poids et tout est laissé sur le dos des ministères de la promotion de la femme qui n'ont pas souvent les ressources nécessaires pour conduire des grands projets.
Le taux de fécondité au Mali est de plus de 5 enfants par femme et le taux de mortalité infantile et maternelle est encore élevé. Vous avez travaillé également sur les questions de santé reproductive. Que préconisez-vous pour réduire ce taux de mortalité et permettre à la femme de choisir le nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir?
C'est vrai que au niveau de la Commission africaine, j'ai apporté ce dossier-là au niveau des différents pays avec l'accompagnement des ONG spécialisées dans la santé sexuelle et reproductive, l'accompagnement également de l'INFPA. Et dans chacun des pays, il y a des programmes qui existent. D'ailleurs, dans notre pays, nous avons vu que les financements sont conséquents et il reste à infléchir sur la démographie. Et ça, c'est quelque chose qui relève de la politique démographique du pays. Et au niveau des ménages, il y a encore beaucoup de gaps. La polygamie aidant et puis le fait que la maîtrise de la fécondité ne soit pas une question personnelle, individuelle ou une question de couple. Tout ceci fait que il y a encore les aspects non maîtrisés. Et les services de santé, c'est vrai qu'ils intègrent la santé de la reproduction, ils intègrent les paramètres pour diminuer la mortalité maternelle, mais je pense qu'elle est encore très élevée, surtout dans les zones rurales, avec la difficulté quant à la compréhension de l'utilité des contraceptifs, l'utilité de diminuer la taille de la famille et de la conformer au rendement ou aux ressources de la famille. Tout ceci pose problème. Donc je pense qu'il est fondamental que des politiques plus avisées soient mises mises en place ou soient renforcées pour que on influe sur la mortalité maternelle. Et ça va effectivement à élever l'âge au mariage. Il faut déjà pouvoir maintenir les filles à l'école jusqu'à un certain âge. Il faut pouvoir également uniformiser l'âge au mariage, ce qui n'est pas le cas, mais c'est encore la grande difficulté, c'est que des décisions se prennent au niveau des familles et au niveau des communautés. Et avec la fermeture des milliers d'écoles, on aura des générations perdues, des générations invisibles. Tout ceci procède de beaucoup de politiques qui devraient s'appuyer davantage sur la protection de l'enfance, la protection de la petite fille, la protection en tout cas des droits des femmes en général et des enfants.
À propos de droits des enfants, maître Soyata Maïga, plus de 70% des Maliennes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Comment freiner cette tendance et leur permettre de suivre des études universitaires ?
De mon point de vue, il faut lutter chez nous contre l'insécurité. Encadrer et permettre également aux populations déplacées de retourner dans leur localité d'origine. Réouvrir les écoles, les sécuriser. Il y a des pays qui sont engagés dans la construction d'internats pour filles. Avec l'insécurité, on a eu des cas comme au Nigeria ou au Cameroun où il y a eu des enlèvements de filles. Mais de mon point de vue, les perspectives devraient intégrer l'ouverture d'internats pour les filles et la sécurisation de ces internats de façon à ce que les enfants, les filles en particulier, soient retenus dans les écoles jusqu'à un certain niveau. Cela peut être de nature à les soustraire au mariage des enfants, au mariage précoce et favoriser aussi la poursuite d'études universitaires avec des plans de carrière, d'études au niveau des études scientifiques et autres. Il y a des pays qui se sont illustrés dans tout ceci et qui font des progrès notables, notamment au niveau des pays de l'Afrique du Nord, au niveau également des pays de l'Afrique australe.
Avez-vous connu des comportements sexistes à votre encontre lors de votre carrière ? Est-ce que le poids du patriarcat a également pesé sur votre travail ?
Vous avez dit qu'en tant que juge, il y avait des justiciables qui, quand ils m'ont vu présider le tribunal, ils m'invectivaient pour dire « est-ce qu'il n'y a pas un homme pour faire mon jugement ?» Voilà, au niveau des audiences civiles, par exemple, quand un justiciable homme qui est en faute essaie de vous convaincre pour vous dire « vous-même juge, vous êtes femme, donc est-ce que c'est comme ça que vous allez vous comporter à l'égard de votre mari ?» C'est des réflexions de ce genre. Tous les jours, on en rencontre quand on est femme magistrate dans l'exercice de la profession. Il faut savoir garder son sang-froid, remettre les impertinents à leur place et continuer par l'éducation et la rigueur des fois de la loi, parce que des fois, il faut carrément sévir pour ramener l'ordre et la discipline au sein du tribunal. Même en tant que commissaire, on a vu que les commissaires hommes, parce qu'au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, souvent des anciens procureurs, des professeurs de droit, des anciens présidents de tribunaux qui n'ont pas l'habitude d'être remis en cause dans leurs convictions. Et souvent, comme c'est pas forcément des militants des droits de l'homme qui arrivent ou qui sont élus par la conférence des chefs d'État et du gouvernement, c'est toujours un bras de fer, surtout autour de la vision qu'on devrait avoir en tant qu'organe des droits de l'homme, de promotion des droits de l'homme par rapport aux droits des femmes. J'ai eu toutes les difficultés du monde à pouvoir faire endosser par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples les questions relatives à la santé sexuelle et reproductive. Toutes ces questions-là n'étaient pas bien comprise par le commissaire homme et il a fallu croiser le fer des fois avec certains d'entre eux et qu'on puisse également mettre en place des programmes de sensibilisation des commissaires sur les questions de la santé et de la reproduction. Ensemble, entre femmes commissaires, nous avons tenu tête, nous avons développé des stratégies de communication pour faire en sorte que lorsque il y a effectivement des comportements sexistes, qu'on puisse les régler au sein de l'organe de façon à pouvoir avancer ensemble sur la question des droits humains.
Maître Soyata Maïga, avocate malienne, juriste, ancienne magistrate, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience professionnelle et votre vision sur les droits des femmes dans le monde au féminin de VOA Afrique.
Merci Nathalie et bon vent à ton émission.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête. Like a grown-up, gonna own up. Never gonna see these arms.